complique un petit peu les choses, c'est quoi? C'est que le premier pasouk, il nous parle de l'interdiction de mentir, mais c'est juste à côté des halakhot des juges. Donc de là, a priori, on comprend que ce premier pasouk parle uniquement de l'interdiction de mentir pour les juges. En plus, il a même pas dit ne pas mentir exactement, il a dit s'éloigner du mensonge, comme on verra dans la Gemara. On verra dans la Gemara Shavuot, je pense qu'on y arrivera aujourd'hui, que la Gemara Shavuot te dit que du fait qu'on a dit midvar sheker tichak, éloigne-toi du mensonge, c'est-à-dire que non seulement tu n'as pas le droit de mentir, mais tu n'as pas le droit de faire en sorte que le mensonge arrivera. C'est-à-dire que tu dois vraiment faire en sorte que le mensonge n'arrive pas. Ça, c'est un premier pasouk dans la paracha Mishpatim, qui va s'adresser au juge. C'est pour ça que la première partie de ce cours, donc la page numéro 2 et la page numéro 3, vont s'adresser principalement pour les juges, les avocats, etc. Ensuite, dans la paracha aussi, ensuite dans la paracha Kedoshim, on va parler de mentir dans les finances, dans le business. Paracha Kedoshim, là on dit, vous n'avez pas le droit de nier, vous n'avez pas le droit de mentir, Ishba mito, un homme envers son ami, et comme on a expliqué la semaine dernière, on a dit que quand on voit les psukim qui est autour de quoi il parle, l'otignovu, c'était un vol. D'accord? Quand on a dit le tic nouveau, c'était un vol financier. Voilà, c'était la mitzvah du Rambam d'aujourd'hui. Et donc, juste après, c'est écrit, ne vole pas financièrement ton ami et ne mens pas. Donc, là, la Gemara va comprendre que la deuxième interdiction de mentir, c'est quand c'est un vol financier. C'est-à-dire, je mens pour récupérer une affaire ou pour, c'est lié à la finance. Maintenant, tout ça, on va développer. Maintenant, la question qui se pose, la Torah parlait ici de nier et de mentir. Donc, on a dit déjà qu'il fallait développer quelle est la différence entre nier et mentir. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et surtout, qu'est-ce qui se passe si c'est pas lié ni à la finance, ni au tribunal? Par exemple, ma femme, elle me demande, est-ce que tu étais là-bas? Je dis non, alors que j'y étais. Est-ce que j'ai transgressé une mitzvah de la Torah? Oui ou non? Alors, pour l'instant, j'ai pas dit non, mais j'ai dit pour l'instant, les psukim n'en ont pas parlé. Ok? Ensuite, la semaine dernière, on a étudié deux grands Tehilim, donc le Tehilim 101, pardon, et dans prophète Irmiya, qui nous parle de la gravité du mensonge. Et là, par contre, le chidouche qu'on a eu dans Tehilim 101 et dans le prophète Jérémie, chapitre 9, c'est que là-bas, hein, il parlait plus que de la finance, et il parlait plus que des juges. Il parlait de tout. Oui, c'est bon. Hein. Il parlait pas que de la finance. Là-bas, il parlait de manière générale de mentir à l'un envers l'autre. Et donc, on va voir que la Gemara va utiliser beaucoup le Tehilim 101 et le chapitre 9 de Irmiya pour nous montrer qu'est-ce que c'est le mensonge et que finalement le mensonge ne s'arrête pas qu'à la finance et au tribunal. Alors, on va commencer maintenant. Je suis à la troisième paragraphe en bas. C'est à la fin du sixième chapitre de la Gemara Sota. La Gemara Sota, elle dit Arba Kitot Amar Birmiya Baraba, première ligne. Rabbi Birmiya Baraba a dit Arba Kitot En Mekablot Pneshrina. Il y a quatre groupes qui ne pourront jamais accueillir la Shrina. Comme dit là-bas les commentaires. C'est quoi ces quatre groupes? Quatre leitim, l'équipe des moqueurs, ceux qui se moquent de tout, qui ne prennent jamais quoi que ce soit au sérieux. Quatre hanifim, l'équipe de ceux qui sont constamment en train de, j'ai pas envie de dire passer la pommade, mais qui sont en train de constamment la chanoupa, en français, je sais pas comment on va traduire ça.
Cirer les chaussures.
Flatteur.
Flatteur, exactement.
Cirer.
D'accord?
Cirer.
Flatteur, c'est très bien. C'est une très bonne traduction. Donc, quatre anifimes, les flatteurs. Parce qu'encore une fois, un flatteur, c'est quelqu'un qui ne prend jamais quoi que ce soit au sérieux. Les moqueurs ne prennent jamais quoi que ce soit au sérieux. De tout, ils se moquent.
C'est une forme de mensonge aussi.
Ah oui, c'est une forme de mensonge. Mais sans arriver au mensonge. On va voir que le mensonge, c'est encore plus fort. Parce que flatter, c'est pas mentir. Des fois, flatter, c'est limite mentir. Mais le problème, c'est qu'un flatteur ne prend jamais quelque chose au sérieux. Il est toujours en train de réfléchir comment je vais le flatter et comment je vais obtenir de ça. Troisième groupe, c'est Katch Karim. C'est l'équipe de ceux qui mentent. Et quatrième groupe, c'est Kat Mesapré Lachanara, ceux qui racontent Lachanara. Et dit la Gemara, ces quatre personnes-là, ils ne peuvent jamais accueillir la Shrina, parce qu'ils prennent jamais les choses au sérieux. Vous voyez, c'est quatre choses. Alors, dit la Gemara des preuves, d'accord? Je saute quelques lignes, parce que je m'arrête pas sur les autres, sur les flatteurs, etc. Katch Karim, je vous prenais la ligne soulignée, Katch Karim, d'où on sait que l'équipe de menteurs ne reçoit pas la Shrina, Dirti, parce que c'est écrit, dans le psaume 101 qu'on a étudié la semaine dernière, Deverch Karim, Lo Ikon Lenegad Enai, celui qui parle des mensonges ne pourra pas être devant mes yeux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu dit, je ne veux rien avoir à faire avec une personne qui ment. C'est écrit clairement dans Tehilim. Dieu a dit, celui qui parle des paroles de mensonges, je ne veux pas qu'il soit devant mes yeux. Quand à quel jour on dit ça, c'est que c'est grave.
Pas recevoir la Shekhinah, ça veut dire quoi?
Alors, pas recevoir la Shekhinah, concrètement, ça veut dire qu'il ne peut pas communiquer avec Dieu. Ça veut dire que quand on ne prend pas quelque chose de sérieux, on ne peut pas apprécier un moment de Kedusha. quand une personne sait qu'il y a des moments plus sérieux, des moments moins sérieux, quand il y a un moment sérieux, il sait se reprendre. Mais quand on se moque de tout, quand on est là à être flatteur, quand on est là à mentir, quand on est là à raconter du Lashon Hara, on ne sait pas ce que ça veut dire apprécier le bon moment. Par exemple, pour le dernier, celui qui a raconté le Lashon Hara. Dès qu'il y a un événement qui se passe, tout de suite, il se dit, attends, comment je vais le raconter? Qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que je vais retenir? Mais il dit, mais attends, profite du moment. Il y a un moment, quand c'est passé de Gdoucha, t'es pas journaliste. Tu n'es pas en train de dire, il n'y a pas de journaliste dans la salle. Alors. Et pas journaliste. Réfléchis, qu'est-ce que tu vas retenir. Ne sois pas en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais répéter. Pareil pour le flatteur. Je dis, bah oui, après je lui dirai, c'est bien ce que vous avez dit. Mais non, mais avant de voir ce que tu lui diras, regarde ce que toi t'as retenu. Etc. Le moqueur, comment je me moquerai. Et le menteur. D'accord? Le menteur, c'est pareil. C'est celui qui prend jamais quoi que ce soit au sérieux, comme l'histoire qu'on a racontée la semaine dernière. Maintenant, on va tourner la page. Là, c'est juste une petite introduction pour nous montrer l'importance de ne pas mentir.
Tourner la page, ça ne veut pas dire oublier ce qu'on a.
Trace de chaleur, non. Alors, on va parler maintenant. On va prendre. Vous savez quoi? On va prendre. En fait, c'est souligné un peu plus bas, mais on va prendre depuis le haut de la page. Donc, c'est la Gemara dans le traité Shvuot. Vous savez que la Gemara dans le traité Shvuot. Shvuot en hébreu, ça veut dire les serments. Mais c'est les serments principalement autour du tribunal. Donc, du coup, une grande partie des halachot des tribunaux sont dans la Maseret Shvuot. Sont aussi dans la Maseret Sanhedrin, mais une grande partie est dans la Maseret Shvuot. Donc, on va prendre la première ligne. La ligne juste dessus, c'était écrit Amar Rabba Baravuna. Rabba Baravuna a dit. Aït Tsurba verabana merabanan ve amaaretz. S'il y a un Talmid Chacham, donc Tsurba merabanan, ça veut dire un élève de Chachamim, donc un Talmid Chacham, ve amaaretz, un ignorant, des Itleoudina ba'ade adade qui ont un litige. Et donc, imaginez que devant le juge se présente un Talmid Chacham et un ignorant. Le Legdum Tsurba merabanan ve litige. Le Talmid Chacham n'a pas le droit de s'asseoir en premier. Pourquoi? Mishum de Mechazé, Kevin de Saderle les dîners. Alors, la Gemara, Rashi explique que de quoi on parle ici. On parle ici d'un Talmid Chacham. On va essayer, on rentre un peu dans la Gemara, là. Vous allez voir qu'après, on va arriver au mensonge tout de suite. On parle ici d'un Talmid Chacham qui avait une Gviout, c'est-à-dire qui avait une Chavruta avec le juge. Alors, il se dit, bon, puisque de toutes les façons, je vais me faire juger. Par exemple, je me fais juger à 14 heures. Alors, je vais venir à 13 heures. Et il parle avec le juge. Il dit, est-ce que ça te dérange pas aujourd'hui, si pour pas que je me déplace deux fois, si la chavruta qu'on avait d'habitude, si je la fais à 13 heures, comme ça après, dès qu'on a terminé notre chavruta à 14 heures, ben après je me ferai juger. Sauf qu'il y a un problème. C'est que quand l'autre ignorant va arriver, et il va voir que la personne, enfin son plaignant qui est de l'autre côté, il est assis avec le rav en train de parler, même si nous on sait que le Dayan n'a pas parlé avec lui du jugement, mais il va se dire oui, il est en train de lui présenter ses arguments, en avant-première, je suis pas d'accord. Même si nous on sait que c'est faux, dit la Gemara, c'est assourd. Le seul cas dans lequel c'est permis, c'est si c'est une chavruta qui est toujours comme ça. C'est-à-dire toujours, par exemple, on sait que le 13h à 14h, ils étudient. Et qu'à 14h, c'est l'heure à laquelle le juge accueille le monde. Là, l'autre qui va dire, oui, il est en train de présenter ses arguments, on sait que c'est faux, parce que de toutes les façons, il va dire, écoutez,
il n'est pas qualifié, le juge.
Il est quoi?
Il n'est pas qualifié pour juger un différent entre deux personnes, dans l'un et son ami.
Attendez, qui a dit que son ami?
C'est
la personne avec laquelle il étudie. Surtout, attendez. Surtout que Rashi explique. Non, je comprends votre question. Rashi explique ici, on parle de Tsurba Merabanan, un Talmid Chacham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, le Rosh Yeshiva était aussi le juge. Mais ça, la Gemara va parler juste après. Des cas dans lesquels un Talmid peut dire à son élève, ou un maître peut dire à son élève aussi, je peux pas te juger. Mais là, on parle d'un cas dans lequel il pense pouvoir être impartial, mais le problème, c'est que ça risque d'être mal perçu. Donc, dit la Gemara, Mishum, troisième ligne, Mishum de Mechazé, Keman et Sederle les dîners, parce que ça peut être perçu par le peuple comme si que le Talmid Chacham est en train de préparer son jugement, est en train quelque part de présenter ses arguments en avant-première, et donc on sait très bien que celui qui présente ses arguments tout seul, c'est assourd. Velo Amaran, Ela, Delokavi, Eli, ne dit la Gemara, on a dit ça seulement si c'était pas une heure fixe pour étudier. Aval kavi aleidne, mais si l'heure d'étude était déjà fixe, let lanba, il n'y a pas de problème. Ok. Parce que pourquoi? Memar amar, beidne tarid. Parce qu'il va dire bon, même l'autre personne, il va dire bon, certainement, ils ont fait leur étude habituelle, et donc ils n'ont pas parlé de notre jugement. Ve amar rabba baravuna. Le même rabba baravuna a dit. Ait tsurba merabanan de yada besaaduta. S'il y a un talmid chacham qui connaît un témoignage. Donc il a un témoignage à dire. Mais on va voir qu'il a envie de, retenir ce témoignage, c'est-à-dire ne pas témoigner. Pourquoi? Vezilabe milta, le misa le bedaina, des outarminés. Il n'a pas envie d'aller au tribunal, parce que le juge qui est au tribunal est plus petit que lui. Et donc il se dit, ça se fait pas, moi je suis un grand juge, parce que même des fois il y avait des grands juges, par exemple un juge de 23 ou un juge de 3. D'accord? Un juge de 23 juges ou un juge de 3 juges. Donc, des fois, imaginez qu'il y a un grand juge qui connaît quelque chose et qu'il apprend qu'il peut témoigner, mais seulement il dit, ça se fait pas que moi je vais aller témoigner devant un petit juge. Ah bon, je veux dire, bon, ça fait un peu.
Ah,
j'ai la question. Est-ce que c'est de la gava? Eh ben, il dit, ici, Rabba Baravuna. Donc, aïe, je reprends. Un Talmid Raham qui connaît un témoignage, mais qu'il pense que ça risque de dégrader de son honneur. Ça risque de dégrader de son honneur. Les misa, les védaïna des outerminés, d'aller dans un, chez un dayan qui est plus petit que lui, laissa ou décamé pour témoigner devant lui, dit la Gemara, le lézid, il n'ira pas. Alors, tous les commentaires s'arrêtent sur ça.
C'est incroyable.
Vous savez quoi, il n'ira pas? Non, même en France, rétention de témoignage, c'est très grave. C'est très grave. Ça veut dire quoi?
Surtout pour une histoire de kavod.
Alors, les commentaires expliquent comme ça. Il y a plusieurs options. D'abord, première option possible, c'est que on peut toujours envoyer une équipe, le juge peut envoyer une équipe pour aller récupérer le témoignage chez cette personne-là. En vérité, ce qui le dérange ici, c'est pas de témoigner, c'est de devoir venir se déplacer pour témoigner devant un plus petit juge. Donc déjà, c'est pas une rétention de témoignage. C'est simplement le fait que il pense que c'est pas de son honneur de se déplacer.
Au bout du compte,
c'est plus une rétention de témoignage. C'est simplement qu'il ne veut pas se déplacer. Parce que si le juge lui envoie une équipe, il peut témoigner.
Question d'honneur.
D'accord? Donc voilà. Mais comme David dit, finalement, on revient à quoi ici? On revient à une question d'honneur.
Honneur, c'est
Alors, beaucoup de commentaires expliquent. Les commentaires s'arrêtent sur ça. Il y en a beaucoup qui expliquent en vérité le problème qu'il y a ici. C'est que quelque part, ce n'est pas le cavote du rave. C'est le cavote du tribunal qui représente. Et que des fois, on a eu des cas. Dans lesquels ils vont dire, oui, si lui, il est parti dans ce tribunal, c'est-à-dire que ce tribunal est plus important, moins important. Donc, c'est pas pour sa fonction. C'est pas pour sa personne. C'est plutôt par respect pour sa fonction. En tout cas, Rabba Baravuna tranchait comme ça. Que par respect pour sa fonction, il peut demander à ne pas se déplacer, et plutôt à ce qu'on déplace une équipe pour venir récupérer son témoignage. Et d'ailleurs, la Gemara, juste deux secondes, la Gemara racontera plus tard qu'il y a eu beaucoup de cas dans lesquels on envoyait une équipe pour aller récupérer un témoignage de quelqu'un. Je sais pas si dans la loi française ça existe, ça. On peut envoyer un avocat ou un huissier pour récupérer un témoignage.
On va venir, oui.
S'il paye les frais, il doit y aller au tribunal.
Non, mais ça veut dire qu'il est au moins fait savoir qu'il avait quelque chose à dire.
Ça oui, ça il doit le faire savoir, ça c'est clair. Parce que sinon c'est rétention de témoignage, c'est très grave ça.
Liberté, égalité, fraternité.
Ok. Je crois
que là c'est parce que aussi, quand vous avez un témoin, il l'épluchait dans tous les sens. Mm-hmm. C'est toutes sortes de questions, mais des fois des questions vraiment très basiques.
Ouais. A priori,
un juge qui est habitué à être dans un grand tribunal et à lui-même poser des questions à des témoins de très haute envergure et qui juge les ministres, se faire poser des questions basiques à quelqu'un qui est pas chaud, enfin un juge qui est pas chaud à côté.
Mais bon, voilà, de mémoire, c'est le Marchand qui expliquait ça. De mémoire, c'est le Marchand qui expliquait ça, qui disait ce que je vous expliquais, que le problème ici, c'est en vérité, c'est pas pour lui, c'est pour sa fonction.
Oui, c'est ça.
C'est par rapport à ce qu'il représente.
C'est tout ce qu'il représente.
Par rapport à ce qu'il représente.
Ce grand tribunal, ça peut mettre en question. On a soupçonné que, parce qu'on a posé la question que, donc peut-être que dans ce tribunal, après tout, c'était le grand Beddin.
D'ailleurs, en passant, une petite parenthèse. Quand il y avait en 86, il y avait un grand jugement, parce qu'il y avait un grand jugement sur la bibliothèque personnelle du Rabbi. La bibliothèque du Rabbi, dans laquelle il y a des centaines de milliers de livres. Et il y avait un membre de la famille du Rabbi. Qui n'était plus spécialement religieux, qui a voulu attaquer le mouvement Lubavitch en disant oui, je suis héritier, donc ça m'appartient. Et l'argument du rabbi, c'était de dire cette bibliothèque ne m'appartient pas, cette bibliothèque appartient au mouvement, et la preuve, c'est que toute personne peut venir consulter les livres, d'accord? C'est une des bibliothèques les plus connues des États-Unis. Bon. Donc il y avait un jugement. Et à un moment, il y avait tellement d'arguments que le juge a dit, il faudra que le rabbi vienne témoigner. Au tribunal.
C'est quoi comme juge? Un juge américain.
Un juge américain. Avec un jury, etc. et tout. Bon, c'était toute une grande histoire. D'ailleurs, le rabbi disait que le jugement ici-bas reflète un jugement en haut, qu'en vérité, il y a une attaque en haut sur les sfarim de Torah. Enfin, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous raconterai à l'occasion. C'est vraiment une histoire extraordinaire dans laquelle il y a beaucoup de choses que c'est seulement maintenant qu'on comprend, en 86, c'est seulement maintenant qu'on comprend les enjeux spirituels de cette histoire. Mais bon, je referme cette parenthèse. Et quand on a appris au rabbi qu'il devait témoigner, le rabbi a eu une réaction, il a dit, comment réagiront les bahorim? Parce que pour les Bahouri et Shiva, il n'a pas dit qu'il ne peut pas, il n'y a pas de problème. Il dit, s'il faut, on ira. Mais il dit, comment réagiront les Bahouri et Shiva? Pour les Bahouri et Shiva, qu'on leur dise que leur maître va devoir aller au tribunal et que, comme vous avez dit, au tribunal, on sait comment on va les tourner dans tous les sens. Il dit, comment réagiront les Bahouri? Et Béhémet, quelques semaines plus tard, le 13 qui se lève, qui est devenu une grande fête chez les Chassidim, surtout chez les élèves de la Yeshiva, le juge a dit que finalement le rabbi n'a pas besoin de venir et qu'on peut récupérer le témoignage par sa femme. Enfin bon, on peut récupérer le témoignage. Et quand ils ont pris ça, les Bahouri, ils ont fait une grande fête au 770. Ils ont dit qu'ils ont fait une grande fête. Pourquoi? Parce qu'ils ont rappelé, ils ont ramené la Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dans Sanhedrin a dit que le roi, s'il a un témoignage à faire, on n'a pas le droit de l'imposer à venir au tribunal. On va récupérer son témoignage. Et donc pour les chassidim, ils imaginent leur rabbi comme un roi, hein, parce que dit la Gemara, man malché rabbanan, c'est qui les rois pour nous? C'est rabbanan, c'est les chachamim. On a vu cette semaine, en attendant du Rav Avadia Yosef, on voit mamash que pour les élèves, c'est mamash comme un roi, c'est mamash comme un melech. Et donc pour un melech ne doit pas témoigner. Enfin, pas que de ne pas témoigner, il ne doit pas se déplacer pour témoigner. Donc, je pense que c'est une manière aussi de comprendre ce que cette Gemara est en train de dire.
Bien sûr, mais maintenant, le président de la République, il a été convoqué, il s'est déplacé. Donc, c'est le chef de la justice.
Chez nous.
Non, mais après, parce qu'il y a une loi.
Dans la Torah, ben voilà, il y a une loi. Nous, dans la Torah, même en fonction, on peut l'attaquer en justice. Mais par contre, c'est nous qui nous déplaçons pour aller voir ce qu'il a à dire.
Ouais, c'est un cavot de.
C'est un cavot.
Ça se défend. C'est pas très bon
présenté. Bah, on peut dire que c'est le caveau de la Torah et c'est le caveau de la personne.
C'est ce que le marché a dit. C'est le caveau de la fonction. Donc je referme la parenthèse et on continue. On dit maintenant la Gemara. Amar Rav Shisha Bar Eder. Là, du coup, on n'a pas parlé de mensonge encore. Amar Rav Shisha Bar Eder Ravidi. Rav Shisha, le fils de Ravidi, a dit. Rav Shisha, le fils de Rav Idi, a dit. Af Anan Amitanina. Nous aussi avons enseigné. Matza Sak Okupa. Si il a trouvé une autre halakha dans laquelle on voit que si c'est pas de mon honneur, j'ai pas l'obligation de le faire. Si une personne a trouvé sac, ça veut dire un sac, okupa ou une caisse, v'endarkolitol, et que c'est pas son habitude de prendre. Imaginez que vous baladez dans la rue, vous voyez une grosse caisse, avec dessus écrit un nom. Visiblement, cette caisse est perdue. Normalement, vous avez la mitzvah de la Shavat Aveda. Normalement, il faut la prendre et la ramener à son propriétaire. Mais seulement, le problème, c'est que c'est pas de votre honneur de vous balader avec des choses comme ça. Imaginez, je vais simplifier l'exemple. Vous marchez dehors et vous trouvez un balai. Et sur le balai, il y a écrit un nom. Je me balade pas dehors dans la rue avec un balai. Pour moi, je l'aurais pas fait. Qu'est-ce que dit là-bas la Gemara dans le traité de Baba Metzia? Elle dit arrêtez le itol. Tu ne prends pas. Tu ne prends pas. Mais dit la Gemara maintenant. Donc il explique la Gemara. Il dit tu vois qu'il y a certaines choses que quand il y a une notion de kavod, on ne fait pas. Mais dit la Gemara anemile bemamona. Dans quel cas on dit que le juge ne doit pas se déplacer devant un juge qui est plus petit que lui? C'est bemamona quand c'est pour un litige financier. Mais aval beisura, dès que c'est pour un interdit, c'est-à-dire dès que c'est pour un litige, dès que c'est autour d'une avéra ou dès que c'est autour par exemple d'un meurtre, là dans ce cas-là, en trochma ve en tvuna ve en etza le neged Hashem. Là dans ce cas-là, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de conseil, il n'y a rien. Le juge doit se déplacer. C'est-à-dire que tout ce qu'on a expliqué qu'un juge ne se déplace pas devant un plus petit juge, demande à ce qu'on vienne, c'est pour une affaire d'argent. Mais dès que c'est autre chose qu'une affaire d'argent, surtout pour un issour, là, dans ce cas-là, on n'écoute personne, le juge doit se déplacer. Kol makom shiesh, et là dit la Gemara une phrase qui est devenue depuis très célèbre. Kol makom shiesh bo chilul Hashem, dès qu'il y a un chilul Hashem, en cholkin kavod le rav, on ne donne plus de kavod au rav. Pourquoi? Parce que dit la Gemara, divrei à rav, divrei à talmid, divrei mishomim. Entre le rav, c'est Dieu, et entre l'élève, qui pour nous est un rave, mais qui en vérité est l'élève d'Akadosh Baruch Hu, qui on doit écouter? On doit écouter Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que exactement du cas de Pintras, la Gemara rappellera ça aussi, que quand il y a Chilul Hashem, on met tout de côté. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un meurtre, dès qu'il y a un problème d'interdiction, là dans ce cas-là, on dit au rave, tu mets ton honneur de côté, tu mets ta fonction de côté, dès qu'il y a Chilul Hashem, il faut se déplacer, il faut venir au tribunal.
Ouais, mais ça va, dans quel cas ça s'applique?
Histoire?
Tout sauf l'argent.
A priori, c'est tout sauf l'argent, ouais.
Le gars qui a tué Rabin, il a pris ça comme argument.
Que quoi?
Que Rabin, il était en train de rendre les territoires, c'était un
terrain. On peut pas faire justice tout seul.
Non, mais je veux dire, c'est difficile de savoir dans quel cas ça s'applique.
Non, mais là, c'est pour ne pas se présenter au tribunal.
S'il avait raison, il serait Cohen Gadol aujourd'hui. Donc c'est pas vrai, il est en prison. Pas Cohen Gadol.
En attendant,
c'est un bonhomme. C'est clair, c'est un bonhomme qui est pas stable.
On est d'accord.
Bon,
il y a de tout.
C'est-à-dire que ce bonhomme, il aurait pu tuer sa femme, il aurait pu tuer ses enfants, il aurait pu tuer n'importe qui. C'est un malade.
Mais jamais de la vie, il n'a jamais fait ça.
Non. Pour moi,
il savait qu'il perdait sa vie.
Il aurait pu le faire sans problème.
Il savait que c'était terminé quand tu faisais ça.
Alors on y va. Dis la Gemara maintenant. Raviem a avéé Yadale Saduta. Pour moi, c'est un bonhomme instable, donc on ne doit même pas discuter de ce qu'il a fait. Raviem a avéé Yadale Saduta les Marzoutra. On raconte que Raviem a. Il connaissait un témoignage pour Marzoutra. Ça veut dire que Marzoutra avait un litige et Rav Yemar, qui était son ami, pouvait témoigner pour ce litige. Dit la Gemara, Atalakame d'Amemar. Il est venu devant Amemar. Donc le juge était Amemar. Un des plaignants était Marzoutra, qui était donc un grand maître, et un des témoins était Rav Yemar, qui allait témoigner pour Marzoutra devant Amemar. Raconte la Gemara que Amemar, Odvinu le Khoulou. Il a fait asseoir tout le monde. Il a dit, bon, bah, tout le monde a signé. Alors, Amar, le Ravashi, la même arme, voilà, Ravashi a dit à Amar, il a posé la question, Ravashi, c'était un élève qui était sur place, qui a posé la question au juge. Il a dit, mais voilà, ah, Amar, oula, voilà, j'ai appris au nom de oula, Machloket de Valedinim, que la seule Machloket qu'il y a, est-ce qu'on peut s'asseoir ou pas, c'est pour les Valedinim, pour les plaignants. Qu'il y a une Machloket, est-ce que les plaignants peuvent s'asseoir ou pas? Mais Aval Be Edim, mais les témoins, divrei akol b'amida. Il dit, mais voilà, moi j'ai appris au nom de oula que tout le monde a dit que les témoins doivent être debout. Donc, je comprends que tu nous demandes à nous, les plaignants, de s'asseoir. Parce que bon, on va dire que tu suis l'avis qui dit que les plaignants peuvent s'asseoir. Mais, Rav Yemar, le témoin qui est venu, c'est un rab, mais tu lui as demandé lui aussi, tu as dit lui aussi s'assoit. Mais pourquoi il s'assoit? Oula nous a appris que les témoins doivent toujours délivrer leur témoignage debout. Alors pourquoi tu l'as fait asseoir? Réponse de la Gemara, il dit Amarle, donc le juge Amemar répond, aïe assez, ve aïe assez. J'étais confronté entre deux mitzvot positives. Assez d'irvot Torah adif. Il y avait une mitzvah positive qui me dit que les témoins doivent délivrer leur témoignage debout. D'un autre côté, il y a une mitzvah qui me dit que je dois honorer la Torah. C'est-à-dire, tu t'imagines, les plaignants sont assis et le rav est debout. Il y a un problème de kavod Torah. Donc j'avais un conflit dans ma tête entre, d'un côté, honorer la Torah, d'un autre côté, la Torah qui me dit que les témoins doivent être debout. Eh bien, moi, j'ai préféré le assez du kavod de la Torah. J'ai préféré la mise à positif qui me dit que je dois honorer la Torah.
Comme ça, c'est. Mettez-moi ça debout, ça pose un problème par rapport au.
C'est écrit Ve'amdou.
Ah, c'est écrit Ve'amdou. Par rapport au jugement, ça va pas changer.
C'est écrit Ve'amdou. C'est une dracha. Et la question, c'est quand on dit Ve'amdou, ils se lèveront. Alors, dans ce cas-là, est-ce que c'est seulement les plaignants? Ou est-ce que c'est seulement les témoins ou est-ce que les plaignants aussi? Et donc dit la Gemara que apparemment il y a certains cas dans lesquels même les témoins s'asseyront, c'est s'il y a un problème de kavod Torah. Comme dans ce cas, là c'est clair que ça se fait pas. Le rabbin est debout et tout le monde est assis, ça se fait pas. Maintenant on continue. Tanou Rabbanan et Chachamim m'ont enseigné. Je saute la parenthèse. La parenthèse en passant c'est les mémotechniques, puisque vous savez à l'époque la Gemara elle n'était pas écrite, donc c'était à l'oral. Et ça siman parce que là c'est une sugya dans laquelle il y a plusieurs cas. Et donc il fallait donner des mémotechniques aux élèves pour se rappeler de l'ordre des cas. D'accord, donc siman, donc là il y a un siman pour se rappeler. Tanou Rabbanan et Chachamim m'ont enseigné. Je suis 5 minutes avant la fin. Et là on arrive au mensonge. Minain les dayan chez eux il y a assez sanégran lidvarav. D'où on sait qu'un juge n'a pas le droit de faire un sanégran lidvarav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un juge qui est en train d'émettre un jugement et que dans son cœur il se dit qu'il y a un problème, il manque quelque chose, il manque des éléments. Mais ces éléments il les a pas. Mais il y a une petite voix dans son cœur qui lui dit, il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'il peut se dire? Il peut se dire, bon écoute, moi qu'est-ce que je fasse? Moi j'ai les témoins qui m'ont amené le témoignage, je me base sur leur témoignage, s'il y a un problème, eh bien c'est entre les témoins et Kadosh Baruch Hu. Hein, ça passe d'une réaction classique. D'où on sait que le juge n'a pas le droit, et s'il a une petite voix dans son cœur qui lui dit, il y a un problème, il doit l'écouter. D'où on sait, dit la Gemara, Talmud Lomar Midvar Sheker Tichak. Parce que c'est écrit dans la paracha Mishpati qu'on a pris la semaine dernière, Midvar Sheker Tichak, tu dois t'éloigner du mensonge. Et là, comme dit Rashi, ça veut dire quoi tu dois t'éloigner du mensonge? Ça veut pas dire simplement que tu dois pas mentir, parce que là le juge n'a pas menti. Il dit moi j'ai pas menti, qu'est-ce que je fasse? J'ai pris des témoins qui ont une présomption de cacheroute, et vu leur témoignage, j'ai tranché comme ça. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas menti. Mais comme la Torah n'a pas dit seulement tu ne mentiras pas, la Torah dit tu t'éloigneras du mensonge, ça veut dire que si tu as une situation dans laquelle tu penses que peut-être ça frôle le mensonge, tu dois t'éloigner de ça. Et donc le juge ne doit pas donner son verdict tant qu'il n'est pas tranquille, tant qu'il n'est pas sûr de son jugement. Et des fois la Gemara racontera, surtout dans le traité Sanhedrin, ça, la Gemara racontera que des fois il y avait des jugements qui duraient des années. Des années ça durait. Alors c'est pas qu'on parlait que de ça, mais le juge dit non, il manque quelque chose, c'est pas possible, il y a un problème. Et c'est une siyata d'ishmaïa, c'est une aide d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu aide le juge à sentir que quelque chose ne tombe pas rond. C'est une aide d'Akadosh Baruch Hu. Et donc le juge doit écouter cette petite voix qui lui dit c'est pas bon parce que la Torah nous a dit qu'il doit s'éloigner du mensonge. Donc vous voyez, on a ici une première halakha pour nous montrer comment les juges doivent s'éloigner du mensonge.
Il aide aussi l'innocent à être innocent.
De là?
Il aide aussi l'innocent à être
innocent. Bien sûr. Maintenant, continue la Gemara. Uminayin le dayan chez le yeshef talmud bour lefanav. D'où on sait qu'un dayan n'a pas le droit d'installer devant lui un élève imbécile. Parce que vous savez, à l'époque, ils avaient l'habitude que devant les juges, il y avait des élèves, des apprentis. Et ces apprentis, en vérité, des apprentis juges. Et on leur présentait les cas. D'abord à eux, ils développaient, et après le juge continuait. Donc la Gemara a dit, d'où on sait qu'un juge n'a pas le droit d'installer un apprenti imbécile devant lui, et dès qu'il voit qu'il n'est pas clair, il faut le mettre dehors. Parce que Talmud Lomar, c'est écrit, Midvar Sheker Tichak, tu es éloigné du mensonge. Dire Rashi, ça veut dire quoi? Que quand tu as un apprenti ici qui n'est pas clair, qui a un esprit qui est tordu, des fois, à cause de l'apprenti, le juge peut se tromper. Parce que quand on va débattre,
va l'orienter.
Ça va l'orienter. Donc il dit, écoute, comme la Torah dit, Midvar Sheker Tichak, éloigne-toi du mensonge. Donc dès qu'il y a un problème et que tu penses à quelqu'un qui peut t'amener à donner un mauvais verdict, éloigne-le d'ici, qu'il aille prendre notre métier.
Mais là, les apprentis, ils pouvaient avoir la parole pendant le jugement.
Ils devaient avoir la parole. On devait débattre.
C'est pas des apprentis.
On devait débattre, et après le juge donnait son verdict, et il expliquait pourquoi il a donné le verdict comme ça. Seulement le problème, c'est que dans le débat, s'il y a un qui sort un argument tordu, peut-être le juge, il va retenir cet argument. Donc ça, c'est la deuxième halakha pour nous montrer comment on doit s'éloigner.
Tu peux pas le savoir avant, ça.
Encore une fois, après.
Non, mais bon.
Quand un gars est tordu, on le sent, hein. On sent qu'il y a bon. Dis, monsieur, vous êtes pas fait pour ça, quoi.
Non, mais enfin, il peut y avoir récidive, hein. C'est-à-dire que s'il y a eu des fois, une fois, deux fois, on se rend compte que ça a possible.
Voilà.
Bien sûr, on n'assiste pas.
Période d'essai.
C'est difficile de sortir quelqu'un devant tout le monde dans l'état dégage, c'est pas possible.
Non, gentiment, il faut comprendre, mais bon.
Peut-être le jour suivant, il vient pas, mais.
Écoutez, il n'y a pas de. Dès qu'il y a un problème comme ça, il n'y a pas d'état d'âme. C'est le jugement qui passe en priorité. Ça, c'était la deuxième halakha. Troisième halakha. Halakha très importante aussi. Minay le dayan shiyoda alachavero shehu gazlan. D'où on sait que s'il y a un dayan, un juge, qui sait que son ami est un gazlan. Ou bien, vechen ed shiyoda alachavero shehu gazlan. Un témoin qui sait que l'autre témoin est voleur. Minay shelo itztarefimo. D'où on sait qu'il n'a pas le droit de s'associer à lui. Ça veut dire comme ça. Des fois, ils sont plusieurs juges. Des fois, il y a un juge et plusieurs apprentis. Des fois, ils sont plusieurs juges. Et des fois, le juge, il sait que l'autre juge, il y a des choses qui se sont passées avec lui. Bon, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est un voleur. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais bon, lui, il ne sait pas. Il dit, écoute, moi, pour moi, c'est un juge, il est à côté de moi, on l'installe à côté de moi, c'est entre lui et Dieu. Encore une fois, il peut se dire, bon, c'est entre lui et Dieu. Pareil, des fois, il y a deux témoins qui se présentent. Et bon, un témoin, il sait que le témoin, il n'est pas très propre. Mais bon, il dit, j'ai pas de preuves, moi, je dis rien, moi, je n'avais pas vu, pas pris. Non. D'où on sait que ni le juge ni le témoin n'ont pas le droit de s'associer à quelqu'un qui est voleur et qu'il faut même le signaler. Voleur, c'est-à-dire ou pas cacher. Talmud Lomar, parce que c'est écrit Midvar Sheker Tichak. La Torah ne t'a pas interdit seulement de mentir. La Torah t'impose de t'éloigner du mensonge. Ça veut dire, dès que tu vois qu'il y a un truc qui tombe par an, tu t'éloignes. Continue la Gemara. Minayin le dayan sheyoda bedin sheumerume. D'où on sait que si le juge sait qu'il y a un jugement qui est méroumé. Ça veut dire comme ça. Maintenant, il y a un juge, il a écouté les témoins, il a tout écouté, il a tout récupéré les informations, il n'y a aucune autre information à récupérer, mais il sent, il y a une petite voix dans son cœur qui lui dit que le dîn est méroumé, c'est-à-dire que le dîn n'est pas droit. La différence avec le cas d'avant, c'est que dans le cas d'avant, le juge, il sentait qu'il lui manquait des éléments. Là, non. Là, il comprend. Là, il sent, il dit, bon, on a tous les éléments. Par exemple, il y a eu un meurtre, on a tout vu ce qu'il y a à côté, on a tout vu, ça y est, on a tout vu. Mais il sent que son jugement n'est pas droit. Il met roumé. Mais roumé, c'est tordu. Chez le Yomar, qui ne doit pas dire, oh, il va et dit, mais il dit, puisque les témoins témoignent, achatredou, moi je vais trancher. Veillez, collard, talub et savare et dim. Et que, s'il y a un blâme, que le blâme soit sur la tête des témoins. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il va nous enseigner, midvar sheker tichak, tu devras t'éloigner du mensonge. D'accord? Mais il y a encore beaucoup de cas, mais c'est déjà l'heure, on développera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Plein de cas encore pour nous montrer comment les juges devaient être extrêmement précautionneux à ne pas toucher au mensonge et même à s'éloigner du mensonge.
Est-ce que ça ne consiste pas à laisser la place au mensonge?
Non.
Non, mais parce que vous avez cité le cas d'un témoin qui vient et le témoin n'est pas clair.
Il doit le dire.
Ah, ça peut être la Shonara aussi.
Hein. Non, il n'y a pas.
C'est si clair que
dans un jugement, il n'y a pas de la Shonara.
Non, mais comment moi, toi, t'es témoin, moi, je suis témoin.
Oui.
Et j'ai entendu des choses sur toi.
Ah oui?
J'ai aucune preuve.
En tout cas, je ne m'associe pas à toi.
Non, mais ça veut dire quoi s'associer? Ça veut dire que tu es au moins obligé de dire que tu veux pas ou que tu as un doute
sur
la personne.
Oui, voilà. Je vais le dire.
Tu l'adresses au juge.
Je m'adresse au juge, je ne suis pas obligé de m'adresser à tout le monde.
Et si tu t'écartes, tu sors du truc.
Je peux m'adresser au juge, je peux parler en privé au juge, on a le droit de parler en privé au juge, d'expliquer le problème, il n'y a pas de problème.
Ah, une question.
Attendez, après on a plein de cas encore. Hein. Après on aura aussi le cas de l'élève qui pense que son maître se trompe, mais qui n'a pas envie de le dire, par respect. Ou bien de l'élève qui pense que son maître se trompe et il dit je le laisse finir, et après une fois qu'il aura fini sa construction, moi je le reprends. Plein de cas comme ça. Ou bien aussi, c'est un cas très important. Le cas aussi du bluff. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un te doit de l'argent, et tu vas faire croire que t'as des témoins. Mais tu sais qu'il doit de l'argent. Tu dis, je vais faire croire que j'ai les témoins. T'as quelqu'un, tu lui dis, écoute, de toute façon, il doit de l'argent. Tu vas me rendre un service, tu vas témoigner pour dire qu'il me les doit. C'est grave, mais quelque part, tu dis, attends, il veut pas me payer.
Le mec veut pas me payer.
Il veut pas me payer. Attends. C'est la ruse. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit?
Il doit être rusé comme un...
Moi, je pense qu'il y a un moment où on a le droit.
Comme un renard.
Qui oui.
Non, non, droit. D'accord, rusé que tu achètes quelque part ou que tu vends quelque part, et c'est un prix en potentiel pour toi. Du coup, un truc qui est faux.
Oui.
La mitzvah lui dire.
Bien sûr, oui. Ah oui, c'est écrit, la Torah dit, il faut toujours être propre aux yeux des gens.
Le gars, il achète le même produit que le mien ailleurs, il croit que c'est moi qui fournis. Le gars, chez qui il achète?
Il faut lui dire.
Je suis obligé de lui dire.
Il faut être propre, il faut toujours être propre. Le plus tôt on le fait, le mieux c'est.
Mais tu sais que c'est très difficile d'être commerçant. Hein.
Tu dévoiles ta source d'achat.
Ah non, j'ai pas dit ça.
Mais c'est ça que je fais. Si je lui parle, je dévoile, je dis, ouais, ok, c'est normal que tu aies des meilleurs prix que chez moi, parce que j'achète chez lui moi aussi.
Ouais, bah.
C'est chaud.
Est-ce que tu t'en veux? Il t'en veut?
Comment ça, il m'en veut?
Bah, pourquoi tu vas lui raconter ça?
Non, parce qu'il dit, pourquoi t'es plus cher, puisque c'est toi qui fabrique.
Faut pas ça, c'est pas donner de réponse.
Pas donner de réponse.
Non.
Tu lui as dit pas déjà.
Non, pas du tout. T'as pas
obligation de lui répondre.
On est fabricant, on a toute une gamme, machin. Je vais lui dire qu'est-ce que je fabrique et qu'est-ce que j'achète.
Bah non, c'est pas ton devoir de dire ce que tu achètes.
De quoi?
Tu dis, écoute, c'est le prix auquel je propose. Tu veux, tu prends. Tu veux pas, tu prends pas.
Tu laisses le silence.
Voilà. Tu joues sur l'emballage. J'ai un plus bel emballage.
C'est quoi la garantie?
Non, mais là, vous allez voir. La semaine prochaine, il y aura beaucoup de cas dans le business.